histoire particulière. Du cri du peuple à la fée carabine, on ne compte plus les récits s'ouvrant sur la scène macabre d'une noyée repêchée dans les eaux de la Seine. La figure du noyé, mystérieux, fascine à l'image du visage de l'inconnu de la Seine, dont le sourire énigmatique fut, selon la légende, immortalisé par un employé de la morgue, saisi par la beauté de la noyée, tout juste repêchée de la mare d'huile qui traverse Paris. Nombreux ont été les chalands qui sont tombés amoureux de ce visage figé à jamais, fascinés par le bonheur impalpable qui se dégage d'un moulage reproduit à des milliers d'exemplaires. Mais qui était l'inconnu de la Seine ?
Bienvenue dans le 19e siècle.
Atelier Lorenzi.
Le bâtiment, en effet, a été construit en 1880.
Arcueil.
Par la famille Neveu-Chevalier qui soufflait de verre.
Les Neveux-Chevaliers habitaient ici, à l'étage, jusqu'en 1900, quand ils ont été assez riches pour construire le pavillon qui est à l'angle là.
Donc ils louaient à d'autres artisans. Oui, j'allume pas les lumières.
Et autour de la Deuxième Guerre mondiale, ça marchait plus du tout. Donc les Neveux-Chevaliers ont laissé la place aux Lorenzi, qui, eux, avaient un atelier très très plein de moules et de tirages, comme vous pouvez voir ici dans mon petit musée, où on produit plein de statues.
Je suspendis l'inconnu au mur, dans mon bureau. Comment résister à ce sourire ? Comment ne pas croire à l'existence de créatures élues, pour qui la mort, moins qu'un départ de ce monde-ci, est l'avancée vers des plages de lumière ?
Pourquoi cette fascination ? Mais il n'y a pas que moi pour l'inconnu. Il n'y a pas que moi, je ne suis quand même pas un cas assez monstrueux. Elle est très belle, quoi. Elle a séduit énormément de monde. Elle a fait une sorte de cheminement un petit peu souterrain, sans doute, en moi, qui a éclos quelques années plus tard. Donc, je voulais absolument, c'était mon objectif, mon but initial, essayer de lui rendre son nom. Le nom, c'est ce qui est de plus solide, et surtout, il nous survit, hein. On dit que tant qu'il y aura quelqu'un pour prononcer notre nom, nous serons toujours vivants. Cette tradition juive qui est de libérer les noms comme ça, des milliers de noms de disparus, de gens qui, comme elles, n'ont pas de tombe non plus, c'est une façon de survivre dans la mémoire collective, de rester toujours vivant. Donc je suis parti sur cette idée, lui rendre son nom.
L'inconnu de la Seine. Premier épisode. Une noyée masquée. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez.
Donc c'est une pièce que nous on appelle le petit musée, parce qu'on est assez chanceux pour avoir notre propre petit musée.
Éric Nadeau.
Ici vous avez une Diane Chasseresse par Houdon. J'ai des Carpeaux aussi, la négresse captive de Carpeaux. J'ai des Grecs un peu plus loin, des bas-reliefs grecs, les bas-reliefs du Parthénon.
C'est dans un ouvrage allemand que j'ai vu pour la première fois le visage de l'inconnu. La courte notice de la page 61 m'a appris ce que tout le monde sait. Le corps de la jeune femme a été trouvé dans la Seine et il a été impossible d'établir son identité.
L'exception de l'inconnu, c'est qu'en fait, c'est une anonyme.
On collectionnait les masques mortuaires pour des personnages envers lesquels on avait une empathie. Donc Napoléon, on collectionnait, Géricault, on collectionnait, Verlaine. Donc il y avait une certaine engouement, mais on ne collectionnait pas nécessairement des inconnus, quoi. Dans ma collection, j'ai une cinquantaine de personnalités et une dizaine d'inconnus. Mais les inconnus, pour un mouleur, c'est normal d'en avoir, puisque nous, on nous demandait d'aller mouler sur les gens pour que les familles conservent le visage, puisqu'il y avait des photographies, mais c'était moins usité que maintenant. Bon, les familles demandaient la réplique d'un visage d'un de leurs proches qu'ils avaient aimé particulièrement.
On va aller voir notre atelier de production. Attention, l'escalier est un peu raide.
Je décidais de tout savoir. Il fallait que le mystère fût cerné. J'allais voir le technicien. Il me reçut dans sa boutique. Il n'y a pas de doute, l'inconnue était bien vivante lorsque le moulage en fut pris. Il faut 2 kg de plâtre pour faire un moulage. Ça appuie sur les chairs. Ça creuse sous les yeux, et ça fait là, près des oreilles, les 2 replis que vous voyez. Il me décrochait un Beethoven, affreux, avec les 2 replis, et puis le masque d'une dame, sans replis. Elle avait dû être vivante.
Marius Gros, poème à l'inconnu, 1943.
C'est un passeur, Marius Grou, à ce moment-là. Il rouvre le dossier, il reprend l'enquête. Il cherche à comprendre comment les choses se sont sédimentées, en fait, autour de la réputation de ce masque de l'inconnu de la Seine.
Bertrand Tillier.
Et il mène son enquête. Alors, il y intègre, évidemment, un certain nombre d'acteurs. Je pense à Rilke, par exemple, qui a été un des premiers à mettre en scène le masque de l'inconnu de la Seine. Le mouleur Lorenzi, que Rilke mentionnait de manière un peu voilée à travers la boutique de la rue Racine, qui a disparu très tardivement. Moi, j'ai le souvenir, étant étudiant dans le quartier latin, d'être passé moult fois devant cette boutique de moulage. Mais Lorenzi avait surtout un atelier de moulage à Arcueil, et c'est lui qui a été, sans doute pas le créateur, mais l'un des principaux diffuseurs de ce masque, dans la grande tradition des plâtriers italiens présents en France au XIXe siècle, et avec un véritable savoir-faire. Mais évidemment, il bute ce sur quoi tout le monde butera jusqu'à aujourd'hui encore, c'est-à-dire toute forme de certitude quant à l'identité de la noyée, quant aux circonstances de ce suicide ou de cet accident ayant causé sa disparition. Est-il un vrai masque? Est-il un masque, un faux masque conçu par un sculpteur imitant cette pratique sociale très répandue au XIXe siècle du masque que l'on prend sur le mort ou sur les mortes? Et il se trouve contraint finalement à conclure que le masque reste une énigme.
Donc vous voulez l'histoire peut-être? Bon, l'histoire de l'inconnu de la Seine, telle que nous on la raconte, hein, c'est pas... Donc le corps de cette jeune femme est retrouvé flottant dans la Seine en 1902. Donc il dérive, les gens sur la berge essaient de l'attirer vers eux, donc ils la chopent et puis ils l'amènent sur la rive. Sur la rive, on voit bien qu'elle est morte, donc on amène son corps à la morgue. À la morgue, on enlève les vêtements de la jeune femme, on met son corps sur une grande dalle de marbre pour qu'il se réchauffe pas trop rapidement, et le médecin légiste va devoir constater le décès. Donc il arrive près du corps et il est émerveillé par la beauté, la sérénité qui se dégage de ce visage. On ne dirait pas qu'elle est morte, son visage n'est pas bouffi, il n'est pas caricatural, il n'est pas dans une angoisse. Non, on dirait qu'elle dort et elle dort sereinement. Donc il se dit « Oh, j'aimerais bien conserver ses traits ». Il demande à un de ses apprentis d'aller chercher un mouleur. Le mouleur le plus proche était au 19 rue Racine, s'appelait Monsieur Lorenzi. Donc l'apprenti ou l'assistant va chercher Monsieur Lorenzi. Monsieur Lorenzi dit d'accord, il avait l'habitude, faut croire. Donc il prend son kit de mouleur, il ferme à clé sa boutique et il descend la côte Saint-Jacques. Il fait un masque, un moule du visage, donc il se fait un tirage et il le met dans sa vitrine. Rainer Maria Rilke. En 1910, il fait paraître un petit livre qui s'appelle « Les carnets de Malt Lorett Brigge ». Et à la page 73, ben, il s'arrête devant la vitrine du mouleur de la rue Racine dans laquelle on peut voir le masque de cette jeune femme.
Le mouleur, devant la boutique duquel je passe tous les jours, a accroché deux masques devant sa porte. Le visage de la jeune femme noyée, que l'on moula à la morgue, parce qu'il était beau et parce qu'il souriait. Parce qu'il souriait de façon si trompeuse, comme s'il savait.
Donc c'est pour ça que vous avez mené cette enquête?
Oui.
Et j'ai donc suivi différentes étapes. La toute première, ce sont les archives Roger Violet, rue de Seine, à Paris, des archives photographiques.
Didier Blonde.
J'ai interrogé les archivistes, j'ai demandé également des photographies de l'endroit, du canal de l'Ourcq, de la Seine, de la morgue, comme on disait à l'époque, maintenant c'est l'Institut médico-légal, du tout début du XXe siècle, donc ils m'ont donné, et je veux dire que là, ça permet de commencer à remonter le temps et d'avoir les premiers éléments de l'enquête. Et dans leurs archives, au dos, une photographie, il y avait masque d'une inconnue retrouvée noyée dans le canal de l'Ourcq en 1901. Voilà le point de départ. Donc j'ai continué mon enquête sur les lieux, j'ai rencontré des gens, je me suis senti de plus en plus proche de cette jeune fille. On n'a pas décrit son visage, on peut le faire peut-être, mais il est très daté. Hein, parce que si on s'en tient à ce qu'on voit, c'est un visage qui est celui d'une jeune fille, ce qui augmente peut-être l'émotion. une assez, voire très jeune fille. Quel âge peut-elle avoir ? 16 ans peut-être. Elle a les cheveux coiffés en bandeau, qui encadre son visage, le serre sur les oreilles, qui le ferme un peu. Et ce type de coiffure était à la mode au milieu du 19e siècle. Madame Arnoux, enfin bon, dans l'éducation sentimentale, enfin on voit ça sur tous les tableaux. Donc il fallait remonter, et puis il y a eu des traces, quelques témoignages que j'ai pu croiser, qui faisaient remonter, disons, aux années 1870, 60, 70. Donc je savais que de toute façon, 1901, c'était voilà, une date qui avait été ramassée quelque part, mais qui n'était pas authentique. Mais mon imaginaire ne s'est pas fermé du tout, au contraire, il a rebondi, voilà.
La seule manière dont on peut le dater, c'est la coiffure, la fameuse coiffure à bandeau, qui en fait était très populaire pendant le Second Empire. Elle a été popularisée par l'impératrice Eugénie.
Anne-Gaëlle Saliot.
Mais on pourrait penser à une datation autour de 1850-1870. Sauf que la première occurrence du masque dans le monde littéraire, c'est en 1898, dans un écrit de Richard Le Gallienne. Donc c'est vraiment plus tardif. Alors est-ce que la coiffure était peut-être surannée déjà à l'époque où le masque a été produit, c'est possible. Il y a une dimension anachronique, il y a une dimension fantomatique, on arrive. Voilà, le fait de cette absence de date et d'origine précise, évidemment, fait partie du mystère.
C'est compliqué de trouver une sorte de généalogie de la popularité de ce masque, parce que on est réduit à tirer des fils avec des manques, avec des trous dans cette généalogie. Ce masque est là, il disparaît, il réapparaît. En tout cas, c'est à partir des années 1860, sous le Second Empire, que le masque de l'inconnu de la Seine commence à apparaître. Alors, vraisemblablement en tant que tel, mais et encore, on n'en a pas l'absolue certitude. En tout cas, c'est le moment où il commence à être reproduit, relayé par des images qui le représentent. Je pense en particulier aux cours de dessin de Bargue et Jérôme, hein, Jean-Léon Jérôme, le grand peintre des épisodes mythologiques sous le Second Empire et la Troisième République. Jean-Léon Jérôme représente, parmi les planches, les figures des planches de sa méthode de dessin, il représente en 1867 le masque de l'inconnu de la Seine. Il y a peut-être eu des représentations antérieures, en tout cas pour moi c'est l'une des premières à avoir été conservée et identifiée, et donc on voit que c'est à travers ce système du relais de la reproduction que cet objet lui-même reproductible commence à entrer dans une existence sociale.
Et en effet, l'inconnu de la Seine. Donc ça, c'est le moule de 1902. Donc vous voyez, c'est un moule en plâtre dont la surface a été recouverte par de la gomme laque très épaisse qui lui donne cette couleur brunâtre, rougeâtre, chatoyante, très jolie. La gomme laque est là pour étanchéifier le plâtre puisque c'est une technique de reproduction qui s'appelle à la gélatine. Et la gélatine est humide et le plâtre n'aime pas l'humidité. Donc on protège le plâtre avec cette gomme laque. Donc il y a une chape qui ressemble à ça, normalement, hein, qui va par-dessus le masque. La chape était étanchée avec du plâtre tout le tour. On va verser un mélange de gélatine, de colle de peau de lapin, de formol, de tanin. La gélatine va figer autour du masque. Une fois que la gélatine est figée, on va enlever l'étanchéité et on va enlever la chape. Et là, on aura le négatif pour reproduire un positif.
Donc 1902.
1902.
Mais c'est peu probable, en fait.
Je ne sais pas pourquoi on a choisi cette date, mais on peut dire que le vieux Lorenzi, il mentait pas, il n'aurait pas menti pour ça, je crois.
Elle aurait été morte en 1902, c'est ça, ouais. Ce qui est probable, puisqu'on a des traces avant.
1902, probablement à cause de la venue de Rilke.
C'est lourd, ça, ce...
Oui, c'est pas très lourd, c'est 9 kilos. Ouais. Oui, moi, je la trouve pas particulièrement belle. C'est pas... J'ai pas tout à fait beaucoup d'empathie ou d'attraction vis-à-vis de cette jeune femme.
J'ai des clients qui sont amoureux fous, mais je vois pas ce qui peut susciter autant de... en voyant son visage.
C'est votre plus gros succès, celui-là, non ? Mais à l'époque de Lorenzi, lui, il avait vendu beaucoup déjà. Donc c'est sûrement ce que vous avez...
Oui, oui, ça, c'est clair que c'est le truc qu'on a vendu le plus.
Le masque de l'inconnu de la scène s'inscrit dans cette vogue immense au XIXe siècle, qu'on a un peu oublié, du dernier portrait. Ce qu'on a pu appeler le mortrait, hein, le portrait du mort. Mais le grand paradoxe, c'est évidemment le fait que cet inconnu de la scène porte bien son nom. C'est-à-dire qu'elle est totalement inconnue et que donc on ne peut pas posséder son masque pour clarifier son identité. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on est dans ce moment où on cherche, évidemment, par toutes sortes de procédés à stabiliser les identités, et notamment par l'image. C'est le moment où Bertillon va explorer les ressources et les potentialités de la photographie anthropométrique, de la photographie judiciaire, dans un autre domaine, mais c'est la même histoire, au fond. Et l'image, quelle que soit sa forme, participe de cette définition d'une identité présentée comme devant être certaine, devant être attestée. Or, au contraire, on possède son masque parce que son identité est trouble, qu'elle est indécise, de la même manière que son expression est indécise, avec ses yeux fermés qui font qu'elle semble dormir et qu'elle semble sourire dans le sommeil ou dans la mort.
Elle est jeune, très jeune. C'est presque une enfant, une fille du peuple, à cause de la coiffure. Les lèvres serrées, la mâchoire contractée, c'est la rigidité cadavérique. La mort affine les traits. Le sourire peut s'expliquer comme cela, par la pétrification des traits. Ce qui est surprenant, c'est que son visage n'est pas déformé.
Donc je suis allé aux archives de la morgue. La morgue elle-même se trouvait au moment où elle est morte, derrière Notre-Dame. Donc le lieu même où elle aurait été exposée, où se serait fait... Le moulage a disparu, mais c'est un lieu qui est quand même chargé d'histoire, à cet endroit-là. Et puis donc à quelques centaines de mètres, Place Mazas, l'Institut médico-légal, où je me suis rendu. J'ai rencontré des médecins légistes à ce moment-là, je leur ai montré la photo, comme si je leur demandais d'autopsier un peu ce visage, cet inconnu, qu'est-ce qu'on pouvait en dire. Il y en a qui connaissaient plus ou moins l'histoire, pas tant que ça. Et c'est là, à l'Institut médico-légal, que sont amenés tous ceux qui, les accidentés, les morts de la voie publique. Donc, elle a été amenée, elle aussi, donc, à la morgue, et exposée. Et il y a des traces de cela dans les archives de la morgue. Donc, j'ai pu consulter ces registres. Et je dois dire qu'au cours des étapes de mon enquête, c'est un des moments les plus forts. Que j'ai connu. Ce sont des très gros registres, rectangulaires, reliés, en toile, avec une écriture manuscrite du greffier en chef, des colonnes, avec le jour, l'heure où le corps a été amené, la description minutieuse du corps et de tous les objets qui se trouvait sur ce corps. On fait les poches des morts, et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses à travers ces quelques objets. Et puis, notre colonne où il y a le genre de mort, son KL, submersion, voilà. Et le poste de police, de secours, où ça a été retrouvé, où il a été acheminé.
Numéro d'ordre, 405. Date d'entrée, 14 juin. Heure d'arrivée, minuit. Nom, prénom ou désignation. Néant. Sexe. Féminin. Âge. Entre 15 et 17 ans. Vêtements. Chemise blanche marquée AB. Pantalon gris rayé blanc. Jupon bleu et blanc. Bas noir. Ruban en soie noire. Un porte-monnaie contenant 10 centimes. Un dé à coudre. Trois médailles de piété. Un bout de crayon. Lieu où le cadavre a été retrouvé. Canal de l'Ourcq. Genre de mort. Submersion.
Et là, je me dis, c'est elle. Voilà. J'ai été pendant un moment presque convaincu que je l'avais trouvée. Elle avait des... Ce qui est très émouvant, c'est tous ces objets, ces petits mouchoirs brodés aux initiales A, B. Voilà. Donc j'ai rêvé sur ces deux initiales, et surtout sur le prénom d'époque, Augustine, Agathe. Enfin, bon. Après, dans mon enquête, j'ai fait des recherches dans la presse de l'époque, dans les journaux, qui permettent là encore de remonter le temps, parce qu'on voit exactement comment les gens vivaient, ce qui se passait, non seulement ce qui se passait, mais la sensibilité, l'atmosphère d'une époque qui a été la sienne, en principe. Et je suis tombé une fois sur un article, épidémie de suicide. Il y avait, on s'étonnait, des dizaines de jeunes filles qui choisissaient de se noyer dans la Seine. Et puis la deuxième chose qui m'a saisi, c'est que, vous savez qu'à la morgue, au moins à la fin du 19e siècle, au cours du 19e siècle, les corps étaient exposés, les corps anonymes, pour qu'on essaye de retrouver leur identité.
C'est un lieu très spectaculaire. C'est un endroit où on montre les corps sur des plans inclinés en direction du visiteur à travers des parois vitrées, ce qui permet de voir à la fois les corps dont on cherche l'identification, mais aussi de voir la violence sociale s'exprimer. Zola le montre dans Thérèse Raquin, où le personnage de Laurent va voir à la morgue si le corps de Camille a bien été retrouvé. La morgue est un lieu où l'on regarde, des bandes de gamins viennent voir la nudité d'une femme repêchée, par exemple, viennent rire devant les grimaces des corps gonflés.
Avec un petit robinet d'eau féniquée qui coulait sur le visage pour éviter que les chairs ne se putréfient trop vite. Et on demandait, on disait, voilà, c'est un devoir de citoyen, si vous connaissez quelqu'un, faites une déclaration. Et moi, dans le registre que j'ai compulsé en 1901, il y avait déjà un grand nombre de photographies des visages qui permettaient cette identification. C'est bouleversant, évidemment, c'est une émotion très très forte. Et il y a quelque chose qui ressort immédiatement, c'est que tous les corps des noyés que je voyais photographiés, comme ça, paupières closes évidemment, étaient gonflés, bouffis, complètement déformés. Il ne pouvait pas lui ressembler. Moi, naïvement, je me suis dit, je vais tomber sur la photo quasiment du masque, vous voyez. Et non, non, c'est beaucoup plus terrible que ça. L'image qu'elle donne de cette mort, peut-être de ce suicide, on peut se poser la question. C'est une image qui est trompeuse, rassurante, consolatrice, peut-être, mais elle ne correspond pas à la réalité, en tous les cas, de la voie publique des années 1900.
Et donc, du coup, ça a remis en question la crédibilité de votre enquête, à ce moment-là ?
Non. Non, évidemment, c'est me suis posé des questions. Alors, une des hypothèses, c'est de dire que le moulage a été levé sur une jeune fille dans un atelier et elle a servi très vite de modèle pour l'apprentissage du dessin. Et ces premières images se sont répandues dans les ateliers de peintres et de dessinateurs au XIXe siècle. Donc c'était déjà une autre vie qui n'était pas nécessairement à repousser et qui n'était pas moins intéressante que l'autre. Mais quand on se tient absolument à ce qu'on voit, on a un visage endormi. On n'a pas nécessairement le visage d'une noyée, avec ses bandeaux, évidemment les paupières closes, les lèvres un petit peu minces et serrées, les pommettes saillantes. C'est le sourire qui a fasciné tout le monde. Le sourire de la Joconde. Aragon disait la Joconde du suicide. Ce sourire tellement énigmatique, c'est ça qui est fascinant. Et qui est un sourire entièrement intérieur, comme si elle refermait sur elle-même une sorte de secret. Quoi. C'est-à-dire qu'elle s'offre à nous et en même temps elle se dérobe. Quoi. Pourquoi sourit-elle ? À qui sourit-elle ? Pourquoi ? Une sorte de... qui peut être un sourire de rêve d'amour aussi, d'extase même. Je ne sais pas ce qu'elle cache profondément et il faut lui laisser, surtout lui laisser sa part de mystère, qu'elle conserve son secret, son énigme. Et donc, je me suis rendu compte, ça, à un moment, que ce sourire tellement puissant, énigmatique, qui nous aspire et nous repousse en même temps, il suffit de se déplacer un tout petit peu, de se mettre sur le côté, et pour qu'il disparaisse. Quand on la voit de profil, son visage se ferme, ne sourit plus. Et donc il y a un autre visage de l'inconnu de la scène qui permettait d'ouvrir presque sur une nouvelle enquête.
Malheur, cher ami. Malheur et catastrophe. Il paraît que notre inconnu de la scène n'est point inconnu et ne s'est jamais noyé. On m'a dit qu'il s'agissait là d'un modèle fort beau qui posait vers 1875 dans l'atelier d'un sculpteur. L'aventure est cocasse. Elle est un peu triste. J'accepte bravement la catastrophe. L'inconnu de la scène n'existe pas. Eh bien, on la fera exister.
Elle n'a pas de tombeau, ce qui, comme tous les disparus, mais on pourrait considérer que ce masque, c'est une sorte de métaphore de son tombeau, de sa tombe. Je trouve ça très émouvant. Elle est devenue une sorte de bibelot, c'est vrai, multiplié, mais qui correspond assez bien à cette sorte de dispersion qui est celle des morts, qui sont partout présents autour de nous. C'est pas Mona Lisa, elle n'a pas servi de modèle. Un masque mortuaire, si c'est le cas, même si ça a été fait du vivant du modèle, a touché son corps, sa chair, il y a quelque chose qui s'en est imprégné. C'est pas une œuvre d'art.
Vous l'avez possédé, vous, le masque ?
Oui, quand je me suis mis à faire l'enquête, j'ai acheté une reproduction. Je l'ai gardé pendant un moment, ce qui n'était pas sans citer d'ailleurs des formes de jalousie autour de moi. Et quand j'ai vraiment terminé le livre, quand le livre est paru, je l'ai donné. Je m'en suis débarrassé.
Je dus reconnaître que le sourire de l'inconnu était sourire de femme vivante, que son front était front de femme vivante, et ses yeux, et son nez, et ses paumes et ses lèvres, et ce cou même, tout rond et palpitant de vie. J'étais confondue. Je me donnais même plus la peine de ramasser les morceaux de mon rêve. C'était un matin d'hiver. Il faisait doux et un peu sale. Je marchais dans les rues avec quelqu'un que j'aime. Je me demandais, l'inconnu, est-ce que tu l'aimes encore ? Je me pose cette question ce soir même, en écrivant.
C'était l'inconnu de la scène. Une noyée masquée. Fin du premier épisode. Avec Didier Blonde, Anne-Gaëlle Salio, Bertrand Tillier et Éric Nadeau. Lecture, Anne-Vanessa Prévost. Extrait de Poème à l'inconnu de Marius Groux, L'inconnu de la scène de Didier Blonde et des cahiers de Malte Lauritzbrig de Rainer Maria Rilke. Merci à l'atelier Lorenzi à Arcueil. Prise de son, Jérémy Tuile et Alix Barois. Mixage, Valentin Azan-Zelinski. Archivina, Delphine André. Documentaliste, Anne-Lise Signoret et Antoine Vullioz. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez.